France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets, évidemment, on ne pouvait pas ignorer cette journée de solidarité avec le pape afghan. C'est donc une ONG née en France en 2012 qui sera une de nos invitées, qui tisse une toile dans 6 autres pays européens, ainsi qu'au Canada. Dans la deuxième partie de ces carnets, à découvrir, il s'agit de Singa, dirigé par David Robert, dont les actions d'aide en Afghanistan ont été nombreuses. Mais tout d'abord, dans notre département des Vosges, nous allons prendre des nouvelles d'une petite entreprise qui a fait parler d'elle. On dit Inbo ou Imbo, selon l'accent lorrain, depuis notre première rencontre, au point que chaque président de la République, nouvellement élu, s'est rendu sur place, intrigué par la réussite de ces jeunes professionnels de la fabrication bois.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Antoine Kochnek, bonjour.
Bonjour.
Antoine, cofondateur en 2013 de Imbo, en patois lorrain vosgien, c'est en bois, BO accent circonflexe. Vous avez fabriqué des lunettes, des skates, des vélos en bois. Vous êtes installé au Voivre. Moi, je me souviens de vous. Vous étiez tous les 5 étudiants, enfin sortis de l'École nationale supérieure des technologies de l'industrie du bois à Épinal. Et puis, vous aviez un projet de fabrication de produits en bois, le bois local, si possible. Et vous avez commencé. Là, c'était simple. Par une planche de snowboard.
Alors, on a commencé par plusieurs produits. On a commencé effectivement avec les lunettes, les skates et les vélos. Et on avait également fabriqué des paires de skis et des planches de surf de mer pour nous. Et c'est vrai que c'était un petit peu autour de ces produits, autour de la glisse et le fait d'utiliser le bois dans un usage qui sorte un petit peu du mobilier ou de la construction, là où on l'attend plus. On s'est dit, y a peut-être quelque chose à faire autour de la fabrication en bois.
Vous avez profité dès le départ d'un séjour en incubateur, mais quelle était la signature propre d'un beau que vous vouliez donner à vos articles dès la création?
On voulait créer des produits qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, de produits très manufacturés, qu'on traversait la terre en conteneur. L'idée, c'était vraiment de produire à l'échelle locale un produit de façon un peu artisanale, on va dire, entre un mix industriel et artisanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine, on produit en série, mais il y a quand même un aspect fait main, fabrication artisanale qu'on conserve, et c'est vraiment ça qui est un peu l'ADN de chance des produits Inbo.
Ouais, quand on part de 5 personnes, voire 6 à plus de 20, 26 aujourd'hui, il y a une autre fonction que vous prenez, c'est celle de patron d'entreprise, de chef d'entreprise. Ça ne s'improvise pas. Est-ce que la période en incubateur vous l'a apprise, ou c'est le terrain qui vous a permis de découvrir ce métier?
Nous, on l'a vraiment appris sur le terrain, et c'est vrai qu'on a quand même, même si la croissance a été forte, ça s'est fait quand même sur aujourd'hui presque une dizaine d'années. Donc on a un petit peu appris au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée, et effectivement les fonctions de management, de gestion d'équipe, on a pu les apprendre au fur et à mesure.
Et vous parliez d'artisanat, vous auriez pu avoir une méthode industrielle de fabrication, vous avez préféré prendre le pli de la fabrication artisanale.
Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a encore plus renforcé effectivement au moment où on a eu le premier confinement, où on a décidé de complètement changer notre façon de produire et de plus produire des grosses séries où chacun est responsable d'une étape, et plutôt de former nos opérateurs à toutes les étapes de production pour qu'ils soient capables de produire le produit de A à Z. Donc là, en l'occurrence, c'est les lunettes. Et donc aujourd'hui, on a vraiment cet aspect artisanal dans le sens où la personne fabrique sa lunette du début jusqu'à la fin, est responsable de toutes les étapes.
Vous êtes devenu une référence dans votre région, et en particulier dans le département des Vosges. C'est quoi la ligne de force qui a attiré les grands élus à venir vous voir, et quel modèle ressort de votre entreprise?
Alors nous, je pense que l'avenue des présidents, c'était vraiment grâce au maire, Michel Fournier, qui est quelqu'un qui, depuis des années, se bat contre la désertification rurale. C'est vrai que le village des Voivres, c'est un petit village dans le sud des Vosges. C'est pas la montagne, c'est pas forcément une région touristique. Et face un petit peu à la disparition de la vie rurale et tout ça, le maire a su mettre en place tout un tas d'actions pour vraiment inciter les gens à venir s'installer et à créer de l'activité. Et aujourd'hui, vraiment, ce village, il est un petit peu exemplaire pour plein de maires. On n'est pas obligé de se laisser dépérir. C'est pas parce qu'on est dans une zone géographique qui est pas forcément attrayante qu'il n'y a pas des ressources et des choses qu'on peut faire. Et effectivement, je pense que c'est ce que sont venus voir ces politiciens. C'est on peut se battre et réussir à faire vivre des villages, même dans des zones, on va dire, très compliquées, quoi.
Et puis, alors, dernière leçon pour l'instant avec Imbeau, c'est pas uniquement la réussite, à chaque fois je dis success story qui nous intéresse, parce que nous, ce qui nous intéresse davantage, c'est le social, c'est l'humain, c'est l'environnemental, et vous répondez aux trois critères, en particulier par votre mode de management. Donc, vous avez des facilités, malgré le milieu rural, à recruter, parce que vous avez une forme quand même d'emploi qui est très très souple chez vous.
Oui, c'est vrai que je pense que ça c'est une des forces, c'est que effectivement vu qu'on essaie vraiment de mettre en avant le bien-être au travail, voilà par exemple les personnes qui travaillent chez nous, les artisans ont des horaires flexibles, donc ils peuvent arriver le matin entre 7h et 10h et repartir l'après-midi entre 15h et 18h. Et donc voilà, gérer leur emploi du temps comme ils le sentent. Sur l'environnement de l'entreprise, voilà, on a mis en place un jardin avec des aires de détente, des espaces où tout le monde peut aller faire une petite partie de pétanque le midi ou aller cuisiner, se faire un barbecue. Et je pense que c'est tout cet état d'esprit, cette ambiance au travail, c'est aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un espace de vie. Et c'est ce qu'on essaye d'instaurer. Et effectivement, on voit que voilà, malgré notre distance, malgré notre ruralité, on arrive à recruter des gens même sur des postes très qualifiés. Parce que c'est aussi, en plus du salaire, c'est aussi l'état d'esprit de l'entreprise et l'ambiance au travail qui les importe.
Mais je répète, vous êtes vraiment un exemple exemplaire. Imbeau.fr pour l'adresse. Merci Antoine.
Merci beaucoup.
Avec les Afghans, journée spéciale sur France Inter.
David Robert, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on parle de solidarité afghane avec Singa France, dont vous êtes le directeur général. Et vous avez été submergé par la vague de plus de 2700 Afghans qui sont arrivés en France depuis le mois d'août.
Alors, pas tout à fait submergé, non, je dirais pas ça. En fait, à l'échelle des mouvements migratoires habituels, ça reste, d'un point de vue quantitatif, relativement raisonnable. Disons juste que c'est un défi parce que ce sont des personnes qui arrivent à tenter sur un espace relativement rapproché.
Oui.
et qui arrivent avec un certain nombre de talents, de compétences et une nécessité immédiate de protection qui fait qu'il y a un joli défi à ne pas laisser ces personnes être déclassées rapidement au moment où elles arrivent.
Ouais. Mais je veux dire, c'est presque le cas de toutes les personnes migrantes.
C'est tout à fait vrai. Et on va dire que l'Afghanistan, cette terrible crise, a le mérite de nous proposer un défi sur un nombre de personnes relativement restreintes et qu'on est en mesure de relever à court terme. Et c'est en ça qu'on préfère se dire que cette terrible crise, suite à la chute de Kaboul, va peut-être pouvoir faire évoluer dans le bon sens aussi la politique publique sur l'accueil.
Ce qui est toujours redoutable dans ce cas de figure-là, nous sommes dans l'urgence, c'est la situation des femmes. Qui sont soumises parfois à des lois extrêmes. Imaginons que ces personnes ne trouvent pas asile en France. Que vont-elles devenir ? Est-ce que vous avez des moyens de conforter leur situation, leur accueil ?
Alors d'un point de vue juridique, aucun. Hein, ça dépend de l'OFPRA, évidemment.
Ah oui.
Donc on peut imaginer, je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont demandé une protection quasi automatique, puisque le fait d'être femme dans un régime taliban est en soi une forme de danger par essence, donc on va dire qui satisferait le conditionnel à dessein à peu près toutes les conditions de la Convention de Genève pour requérir la protection. Mais nous, d'un point de vue juridique, c'est pas notre travail, donc on espère évidemment que les institutions françaises feront le boulot de ce côté-là. Et après, une fois qu'elles sont là, l'idée c'est de se dire comment on travaille spécifiquement sur un public féminin qui est qui cumule un certain nombre de freins périphériques au fait de se sentir chez soi, pouvoir contribuer à la société et qui a une demande de protection aussi légitime qu'essentielle.
Le principe depuis 2016 en particulier, c'est de faire appel à la conscience solidaire des citoyens qui peuvent ouvrir un temps, pendant un moment donné, leur domicile à l'accueil de ces personnes.
Alors tout à fait, c'est donc 2015 hein, pour être précis, le début de l'expérimentation cohabitation solidaire. Donc pour remettre un peu dans le contexte, Singa à l'origine, ce sont des incubateurs. Donc c'est comment on fait pour faire émerger de l'innovation sociale en utilisant toutes les personnes qui arrivent et leur nouveau regard sur la société pour monter des entreprises, des associations, des projets citoyens ou professionnels qui vont améliorer l'innovation sociale autour de l'accueil. Et en 2015, il y a un des projets qui sort de nos incubateurs, qui s'appelle j'accueille.fr, et qui effectivement part d'un postulat qui est, pour se sentir vraiment chez soi, il faut connaître du monde. Et en fait, le meilleur moyen de nouer des liens, c'est évidemment d'être en colocation. Donc on se dit, la colocation, c'est un moyen fantastique, d'une part pour les personnes de se sentir enfin débarrassées temporairement des contingences matérielles. Donc quand on a un logement, la même adresse pendant un an, en fait, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le français, de rechercher un boulot, de monter sa boîte pour les entrepreneurs. Donc c'est d'abord un tremplin absolument fantastique vers l'autonomie, l'appropriation des codes socioculturels, etc. Et d'autre part, c'est aussi un tremplin très intéressant sur le changement de narratif. C'est-à-dire que quand on connaît quelqu'un qui accueille, qui pendant un an ouvre la porte de sa chambre d'amis pour accueillir quelqu'un, on change de perception sur ce qu'est la migration.
Et les impacts de cette démarche sont évidents, parce que vous les avez mesurés sur le nombre de personnes qui trouvent une solution de logement pérenne.
Absolument.
Ceux qui arrivent à trouver un emploi, ceux qui peuvent reprendre des études.
Exactement. On multiplie à la sortie sa capacité à trouver un emploi par 4, oui. Sa capacité à trouver un logement autonome par 6. C'est donc sans comparaison avec les dispositifs traditionnels d'accueil en collectivité, où forcément les contraintes en termes d'intimité, de confort sont bien moindres. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas grand-chose à la collectivité publique, d'une part, et puis, une fois encore, on se sent chez soi quand on connaît du monde. Et l'accueillant, il doit surtout ensuite faire profiter de son réseau professionnel. Quand vous connaissez ça, quand vous avez un cousin éloigné qui vous envoie un CV en disant « c'est le CV d'un copain, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» on dit « oui, mais je connais pas la personne en fait, donc je veux bien rendre un service, mais c'est pas forcément l'idée du réseau que je me fais. » Alors que quand on partage au quotidien la vie de quelqu'un, on peut dire « je le connais, il est ponctuel, il est sympa, il est fiable ». Et d'un seul coup, la recommandation a beaucoup plus de valeur.
J'espère qu'il y aura d'autres contributions. Pour être accueillant, il faut être évidemment prêt à vivre cette expérience sur une certaine durée, avoir une chambre
Exactement.
Disponible, et puis vivre en zone urbaine, c'est la troisième condition.
Alors, zone urbaine ou périurbaine, on essaye d'étendre assez largement le territoire. Pour l'instant, on est en zone urbaine essentiellement pour une question pratique, c'est-à-dire que les emplois ne sont pas tous en zone urbaine, mais c'est aussi parce qu'on essaye d'être au plus proche des accueillis et des accueillants.
J'accueille.fr et puis le site de l'ONG Né en France, singafrance.com. Merci David Robert.
Un plaisir, merci à vous.